son pupitre, la lumière diminua. Le dernier sorti entendit la voix du général. « Ce qui compte pour nous, il était dehors et la nuit était claire. » À ce moment, l'infirmière crut qu'Augustin était mort et prit le drap pour en recouvrir sa tête. On l'en empêcha. Pendant plusieurs jours la fièvre fut moins forte. On le vêtit puis il se vêtit tout seul. Il put marcher jusqu'à la fenêtre. En se penchant un peu, il voyait de petits personnages vaquer à leurs occupations comme s'il avait lu un conte ou regardé un tableau maniériste. Tout cela, quelle nouveauté était présent à son cœur, le mouvement, les couleurs, l'avenir peut-être, une curieuse gaieté le prenait. Ce qu'il pouvait désormais connaître frémissait là devant lui, tout près du frémissement divin des premiers jours. Il reprit ses conversations avec le capitaine du registre des morts. Celui-ci racontait, tonitruant, des histoires de trafiquants qui faisaient venir de Cuba des cigares par caisse comme des bananes. Il se moquait de tout. Dieu a créé l'Amérique pour ne pas décevoir le rêve de Colomb, et Salonique celui de Sarail. Il interpellait la sœur qui ne s'offusquait pas. « Il n'y a pas de veau gras, mais on trouvera bien une chèvre, ma sœur, vous prendrez votre plus grande poêle, les petits soldats vous aideront, les héros de la Somme, et vous ferez frire la chèvre entière. Et que la viande soit tendre, avec le sang qu'il faut, on ne gouverne pas sa vie, ma sœur, et puis le professeur et moi nous boirons du vin grec, parce que nous sommes contents. » Augustin étendait les jambes, regardait ses pieds chaussés de laine, regardait la sœur qui prenait l'air complice. Le lyrisme incongru du capitaine les faisait sourire. Il disait, « Tout est neuf toujours. J'ai perdu mes cheveux et mes amis et nous allons gagner la guerre. Ce n'est pas un jour pour la lassitude. Les plaques, les monuments aux morts excitaient sa verve. Ils en élèveront partout de grands blocs de pierre avec des coques et des fusils. De vrais tombeaux pour les crevés de la dernière au mot de crever, Augustin tressaillait en souvenir d'Alcossé. Surtout pour les crevés qu'on a perdus en route. Volatilisés, les crevés, et dans 3 ans, non, dans 1 an à peine, ces machines nous paraîtront aussi éloignées de nous que les tombeaux des pharaons. Sensible à la douceur inconnue du printemps, Augustin souriait au pharaon. Peut-on seulement parler d'une gaieté pharaonique, et l'air du dehors bousculait les fenêtres. La sœur, debout, montrait au soleil un profil charmant. Le planton du bureau des statistiques suivait le capitaine à 3 pas. Il était du même village que les 2 malades de la grande salle, que la Marie, que le beau Justin. Le capitaine le plaisantait, « Vous allez revenir de la guerre et revoir la Marie. » Elle vous dira que vous ne savez rien de la vie, rien de rien du tout, et près d'elle vous serez toujours comme des enfants. Le planton se désolait, Augustin riait. Les noms lus au carrefour, le chemin pour rentrer, l'attente imprécise de l'amour et l'amour qui ne peut disparaître, heureux sortilège. Le capitaine allumait cigare après cigare malgré les objurgations des infirmières. Faisons de l'argent. « Mon cher, après la guerre nous ferons de l'argent, je crains que nos occupations ne soient antinomiques », objectait doucement Augustin. « Mais non, faisons de l'argent. Nous gagnerons de quoi venger ce passé triste, acheter l'amour des femmes, les hommes et les chevaux. » Quand le capitaine était dans cette humeur, Augustin voyait en lui un Alcossé joyeux, exubérant. « Alcossé, disait Klein, il est cultacier comme on est putassier. » Les gens à testicules sont toujours malcommodes. Celui-là est malcommode, mais pas malheureux malgré son sale travail, pensait Augustin. À l'entendre, tout était bien. Marie-Antoinette apprendrait à ses enfants à siffler les premières mesures de la force du destin, et les chansons qu'il préférait, celles qu'il lui avait laissées. Les collets noirs en l'honneur de la reine guillotinée, et l'étang bleu, avec cet âne au bord qui se rêvait gendarme à pied. Tout était bien. Lorsque 6 mois plus tard le Charleroux quitta les eaux noires du port, Augustin vit sans regret les toits de Salonique s'éloigner et disparaître. Gallimard 5, rue Gaston Gallimard, 75328 Paris Sedex 07 www.gallimard.fr Copyright Édition Gallimard 1990, pour l'édition papier, Copyright Édition Gallimard 2018, pour l'édition numérique. Couverture, Gustave Caillebotte, jeune homme à la fenêtre détail. Collection particulière. Du même auteur aux éditions Gallimard La Corruption du siècle, 1988. L'Infortune 1990. En collaboration avec Jean d'Ormesson, Garçon de quoi écrire chez d'autres éditeurs Allée du Monde, en collaboration avec Gilles Étrillard, Paris Feuillard 1983. L'Indépendance à l'épreuve, Paris, Odile Jacob, 1988. François Sureau, L'Infortune au début du siècle, un petit château dans le Berry. Les habitants du pays croient que chaque nouveau propriétaire apporte avec lui une nouvelle guerre. Augustin Pierre est chirurgien à la Pitié-Salpêtrière. Il aime son métier. Il a pris, croit-il, la mesure de sa vie, entre l'hôpital et ses misères, son père, libraire place Saint-Sulpice, l'amour qu'il porte à sa ville, et les plaisirs de l'amitié. Il lui reste encore à passer de l'autre côté du miroir. Augustin Pierre et le château de Bussy se rencontrent. Commence pour Augustin un parcours initiatique où, sur les traces de ses aînés, il est mis en face de la folie de l'amour de la guerre et de sa propre mort. Le Berry, étangs et forêts, Paris et l'hôpital, la Macédoine et Salonique, l'Égypte et l'Alsace, sont à l'arrière-plan de ce long voyage dicté par le désir de traverser les apparences. Cette édition électronique du livre L'Infortune de François Sureau a été réalisée le 27 août 2018 par les éditions Gallimard. Elle repose sur l'édition papier du même ouvrage, ISBN 9782,070,385,621 numéro d'édition, 330,894.